France Inter.
La chef cuisinière et ancienne championne d'escrime Manon Fleury a vu son restaurant d'Attil couronné de sa première étoile l'année dernière. Passé par les restaurants Lastrans, The Kitchen Gallery, Le Perchoir, Semilla, Mermoz ou Blue Hill at Stone Barns à New York, elle a cofondé en 2021 l'association Bondir pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la restauration et a publié en 2022 l'ouvrage Céréales, les recettes d'une chef engagée chez Flammarion. Elle vient de publier avec Zazie Tavitian, qui foule un temps les couloirs de la Maison Ronde, le cahier de vacances culinaires Amuse-Bouche, illustré par Oriane Safran. Et Proust aux éditions de Noël. Un livret de jeux, exercices et recettes pour tester vos connaissances en cuisine. Sachez que j'ai perdu avant même d'ouvrir le cahier, comme le prouvent les surimi qui m'attendent dans mon frigo après cette émission. J'en profite pour les saluer avec vous. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Manon Fleury.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Alors, la dernière chose qui m'a enthousiasmée, c'est le festival auquel j'ai participé récemment, qui s'appelle Chef, qui est organisé par une association qui s'appelle Ernest, et qui a réuni que des femmes chefs en même temps, sur un lieu magnifique qui s'appelle le Mazette, qui est une péniche sur la Seine. Et c'était un moment magique, car c'est assez rare de voir autant de femmes chefs réunies. Donc on a cuisiné tout ensemble. C'était des petits plats, les gens pouvaient choisir ce qu'ils voulaient manger. C'était comme un festival de musique où on va de concert en concert, sauf que là on allait de stand en stand pour pouvoir dîner.
10% des femmes font partie des chefs étoilés.
Tout à fait.
Et donc vous vous battez pour que ce soit un peu plus comment ?
Un peu plus égalitaire, avec plus de femmes qui sont représentées, et puis que ce soit un peu plus inclusif. En tout cas, qu'il y ait plus de femmes qui osent se dire qu'elles peuvent avoir une carrière dans le métier sans se mettre de barrières.
D'Attil, c'est le nom de votre restaurant. Ça renvoie à une variété de prunes du Lot-et-Garonne qui ressemble à une quetsch. Vous oui. L'aimez particulièrement ?
Je l'aime particulièrement. Alors, c'est un peu plus petit qu'une quetsch. Et j'avais fait en fait une étude sur ces prunes-là pour une émission avec François-Régis Gaudry sur France Inter, où j'avais fait des essais de séchage de prunes, comme vous savez, comme les pruneaux. Et en fait, c'est une prune cousine de la prune Dante, qui sert traditionnellement à faire les pruneaux d'Agen.
Dante comme la Divine Comédie ?
Exactement. Et qui, donc cette prune d'Attil a failli disparaître, mais elle a été réintroduite grâce à un fossile de noyau. Et donc pour moi c'était très chouette de voir cette prune qui représente les variétés qu'on travaille beaucoup chez D'Attil, des variétés qui pourraient disparaître s'il n'y avait pas des gentils maraîchers et des gens exceptionnels qui les faisaient revivre et qui les faisaient pousser dans leur jardin. Donc c'était un symbole. Et puis en fait, après l'ouverture du restaurant, je me suis aperçue que mon inconscient m'avait guidée, puisque une de mes madeleines de Proust, c'est la tarte au mirabelle de ma grand-mère. Et il paraît que la d'Attil est une cousine aussi de la mirabelle, donc sans doute qu'il y avait des liens avec ma grand-mère, évidemment, comme ça, tous les chefs.
C'est une recette qui est très courante dans l'Est de la France, la tarte au mirabelle.
Tout à fait. Et ma grand-mère était en Franche-Comté, donc j'allais en vacances d'été à Vesoul, et elle avait des vergers. Et on allait cueillir les mirabelles dans les vergers de ma grand-mère, et après on allait faire des tartes mirabelles.
Elle vous a transmis la recette ?
Pas vraiment.
Oh.
J'aimerais bien de retrouver son cahier, mais c'est un projet en cours.
Vous allez réussir à force de faire des tartes aux mirabelles, j'en suis sûre. Est-ce que vous êtes partisane du sucré salé ?
Tout à fait.
Dans quoi est-ce qu'on peut mettre des prunes ?
On peut en mettre dans des salades, on peut en mettre dans des, on peut en manger avec du fromage, c'est toujours délicieux. Mais j'aimerais bien qu'on change un peu cette représentation du sucré-salé, parce que par exemple chez D'Attil, on travaille beaucoup les fruits et les légumes. Et pour moi, c'est pas vraiment du sucré-salé. Je sais pas comment vous dire. Pour moi, les fruits, ils peuvent être traités comme des légumes, et donc effectivement, ils apportent du sucre dans une préparation. Mais c'est loin du sucré salé qu'on pourrait avoir, par exemple, vous savez, quand on mange du foie gras avec un chutney. où il y a vraiment ce contraste très fort entre le sel et le sucre. Ouais. Alors que, pour moi, la chair du fruit, la texture, la fraîcheur viennent apporter des choses dans les plats qu'on pourrait aussi avoir avec un légume. Et ça pourrait s'apparenter à des légumes, parce qu'il y a des légumes qui sont très sucrés, finalement. Vous me parliez de fenouil juste avant
Oui, hors antenne, c'était en secret, mais oui.
Et le fenouil, c'est très sucré, par exemple. C'est presque aussi sucré qu'un fruit.
C'est vrai ?
Oui.
Et la rhubarbe, c'est pas très sucré ?
C'est très acide. Oui.
Ouais. Très bien, je vais réfléchir à la question. Vous êtes née à Dijon, est-ce que vous avez un rapport particulier à la moutarde dans la cuisine ? Est-ce que vous en utilisez ?
Alors, j'en utilise pour faire des vinaigrettes quand je cuisine à la maison, ou pour le repas du personnel de l'équipe, mais finalement assez peu dans la cuisine de Datil.
Est-ce que vous avez une recommandation de moutarde ? C'est la question la plus métaphysique de l'émission.
J'aime bien la moutarde de Lille, j'aime pas trop la moutarde en grain, mais ou alors vraiment pour un usage particulier. C'était quoi la question ?
Et vous la faites vous-même, la moutarde ?
Non, je la fais pas moi-même. D'accord. Du tout. Non. En revanche, j'adore utiliser des graines de moutarde qui viennent souvent d'un maraîcher avec qui je travaille. Et, enfin, c'est pas un maraîcher, c'est un producteur de céréales qui fait aussi des graines de moutarde, parce qu'il faut savoir les graines de moutarde font partie des ingrédients, enfin des éléments qu'on peut ajouter dans les cultures, qui font partie de la rotation des cultures et qui viennent enrichir les sols en azote. Donc elles sont hyper intéressantes dans la rotation des cultures. Donc souvent, quand on crée des plats, on ajoute ce genre de choses pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans les champs. Et donc la graine de moutarde est un beau symbole de la rotation des cultures.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Je suis avec la chef Manon Fleury jusqu'à 21h. Parlons du corps, le vôtre ayant autant œuvré dans les combats que dans les cuisines. Vous avez grandi à Moneto, près d'Auxerre, où vous avez découvert l'escrime. Comment est-ce que vous y êtes intéressée et pourquoi avoir choisi le sabre ?
Alors, en fait, j'essayais des sports après l'école, vous savez, il y a dans beaucoup de petits villages en France, on peut essayer comme ça des sports. Donc j'avais essayé le roller, le badminton, etc. Et un jour j'ai essayé l'escrime et il s'avère que dans ce petit village qui s'appelait Moneto, il y avait un super bon club d'escrime de sabre qui faisait uniquement du sabre, parce qu'il y a trois armes à l'escrime: le fleuret, l'épée et le sabre. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai tout de suite commencé après dans le club qu'il y avait dans mon village.
Vous avez fait vos études secondaires à Besançon, puis vous avez rejoint le Pôle Espoir d'Orléans en tant qu'escrimeuse. Vous avez découvert, enthousiaste, la camaraderie et les compétitions chaque week-end.
Si je fais un parallèle entre l'escrime et un animal, alors forcément il y a la guêpe, mais il y a plus encore, dans ma discipline qui est le sabre, un esprit presque félin, de savoir se cacher dans la brousse et de savoir sortir au bon moment. Mais c'est ça les meilleurs moments, un peu comme un boxeur qui va être dans les cordes, ben j'attends et boum, quand on fait l'attaque, c'est l'attaque finale. Et oui, comme une guêpe, ben boum, on a sa proie, on l'attaque, on la touche et là on la croque. Ouais.
Manon Fleury, à l'internat, vous partagez votre chambre avec l'escrimeuse Cécilia Berder, qu'on entend en juillet 2024 sur France TV. Et il paraît qu'à l'époque, elle se moquait de votre façon de vous nourrir de biscuits secs et de... Non, de fruits secs et de biscuits bio.
Vous êtes bien renseignée, oui. Tout à fait. À l'époque, on rigolait beaucoup parce que je pense que la nutrition était beaucoup moins au centre des considérations aujourd'hui pour les sportifs, et notamment quand on était quand même on était en Pôle Espoir, mais on était adolescente, donc c'était un peu un truc dont on se moquait. Et moi, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai une mère qui m'a élevée avec du bio et en mangeant, comme qui dirait ceux qui se moquent, des graines et du soja. Et donc on se moquait beaucoup de moi parce que j'avais vraiment un intérêt pour déjà tous ces ingrédients très bons pour la santé. Et donc Cécilia, qui mangeait plutôt des choses parfois un peu interdites, se moquait beaucoup de moi.
Et alors, vous avez appris que par la suite, toutes les tireuses en fait suivaient le régime, donc vous étiez une précurseuse.
Oui, il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit effectivement, maintenant, 10 ans après, tout le monde mange comme toi.
Alors qu'à la cantine de l'internat, c'était pas du tout adapté.
C'était complètement catastrophique, il n'y avait aucun régime spécifique pour les sportifs qu'on était, alors qu'on faisait 15 heures de sport par semaine. Et donc, j'ai des souvenirs de rentrer affamée de l'entraînement et d'ouvrir, parce qu'on arrivait en décalé avec les gens qui mangeaient à la cantine, parce qu'on finissait l'entraînement vers 20h, et on arrivait et on avait la chance de pouvoir se servir dans les frigos du self du lycée. Donc c'était un peu bizarre. Et en fait, on arrivait et souvent, il n'y avait pas grand-chose. Et donc on avait faim. Et donc j'ai vraiment des souvenirs de rentrer de l'entraînement et d'avoir faim et pas avoir assez à manger, parce que c'était tellement mauvais qu'on préférait, voilà. Donc on avait souvent des réserves dans nos placards de chambre d'internat.
Et alors, quand on fait pas trop de sport et qu'on a très faim, qu'est-ce que vous recommandez de se faire? Quelque chose de très nourrissant.
Très nourrissant. Vous savez, j'ai fait du coup un livre sur les céréales,
ouais,
et les céréales sont des bons ingrédients qui sont très nourrissants et qui font en général, qui quand on les cuisine bien, peuvent être très digestes et qui sont hyper intéressants nutritivement.
Les lentilles, par exemple.
Les lentilles, mais alors les lentilles, parfois il peut y avoir des problèmes de digestion pour le coup.
Vous voulez dire sonore?
Des problèmes de ballonnement. Je ne sais pas que je dirais ça dans cette émission. Mais... Non, mais moi j'aime beaucoup les salades. Je pense que je vais faire sûrement un livre sur les salades à un moment donné, je l'annonce.
Ah, mais je vous encourage.
Et je pense qu'au quotidien, c'est hyper intéressant c'est pour mélanger plein d'ingrédients ensemble et faire ce qu'on adore faire, nous les chefs, c'est-à-dire le vide frigo, rentrer chez soi, avoir 3 ingrédients dans son frigo, parce qu'on a une contrainte créative qui est assez restrictive, et arriver à faire un truc un peu magique avec 3 ingrédients.
Vous avez par exemple, parce que je sais que vous utilisez parfois 3 ingrédients uniquement en cuisine, vous avez une idée de salade simple à faire avec 3 ingrédients?
Bah, on en parlait juste avant l'émission, votre fenouil.
Oui, pendant les essais de voix, oui, j'avais dit que j'avais un vieux fenouil dans mon frigo, voilà, je révèle ce scoop.
Donc, un fenouil, en ce moment, c'est la saison des cerises, donc ça commence. Donc, on ferait fenouil, cerise. Si on voulait mettre une céréale, on mettrait par exemple du petit épeautre, qui est un peu une céréale cousine du blé, qu'il faut faire tremper la veille et après le cuire, parce que c'est plus facile à cuire.
C'est déjà contraignant.
Ouais, c'est un peu contraignant. Ouais. Mais bon, si on s'organise bien...
C'est vrai, mais là, je suis déjà au McDo pendant que vous me parlez. D'accord. OK, on le fait tremper.
On fait tremper, on le cuit le lendemain, pendant une vingtaine de minutes. C'est assez court, quand même. Mmh. Vous voulez une recette de pâtes, plutôt, ça va plus vite.
Ce que vous voulez pour les gens nuls comme moi en cuisine.
Bon, alors on met que du fenouil, des cerises, on fait une belle vinaigrette.
Ok.
Avec, vous m'avez dit que vous aviez du balsamique.
Attendez, ne révélez pas ma vie privée, s'il vous plaît, parce que...
Je révèle ce qu'il y a dans les placards d'Eva Bester. Donc du balsamique, de l'huile d'olive, de la fleur de sel et du poivre.
D'accord, ça suffit.
Voilà, et on coupe finement le fenouil, si vous avez un bon couteau. On coupe les cerises en deux, on enlève le noyau et on mélange ensemble ce fenouil émincé avec le jus des cerises. Ça va être délicieux.
Mmh, d'accord. Vous êtes devenue championne de France sabre junior en 2008, vice-championne en 2009, médaillée de bronze en équipe à la Coupe du Monde d'escrime. Et puis vous vous êtes blessée.
Je me suis blessée, oui, c'était une blessure un peu chronique où j'avais, c'était un peu problématique parce que j'arrivais plus à allonger le bras, j'avais un nerf sous la clavicule qui se coinçait et donc du coup, j'arrivais plus à allonger le bras, ce qui est un peu problématique quand on fait de l'escrime. Et donc ça m'a un peu handicapée, mais c'était pas forcément la seule raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est plutôt que je me rêvais étudiante à Sciences Po, à faire des grandes études, etc. Et arrêter un peu cette vie un peu frénétique avec autant de sport et autant d'activité physique. Et il s'avère que quand j'ai fait une prépa littéraire après le lycée, j'arrivais pas à tenir en place. Donc je pense que j'ai été habituée à avoir une activité physique et sportive. Et donc je pense que mon choix de la cuisine, après avoir fait cette année d'hypocagne, était une manière de retrouver une activité avec une vraie physicalité forte. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément dans mon métier aujourd'hui.
Mais c'était pour être journaliste culinaire d'abord?
Oui, tout à fait. Je savais pas trop en fait. Je m'intéressais à plein de trucs, j'étais curieuse de plein de sujets. Et donc, effectivement, il y avait la cuisine. Et comme je voulais pas me couper d'autre chose, mais je m'imaginais un peu journaliste culinaire au début. Donc, quand j'ai commencé la cuisine, si on m'avait dit t'ouvriras un restaurant dans 10 ans, je l'aurais pas vraiment cru.
Vous parlez de votre rapport à la nourriture qui ne fut pas toujours évident, notamment une période d'anorexie à l'adolescence. Et vous dites justement que ça a façonné votre rapport au métier aussi.
Oui, je pense qu'il y a, comme beaucoup de gens qui ont parfois des troubles autour de la nourriture, on fantasme la nourriture. Et ça, je me le suis révélé il n'y a pas si longtemps, justement en étant loin de tout ça, parce que évidemment maintenant j'ai un rapport beaucoup plus sain à ça. Et je pense que la cuisine m'a beaucoup aidée dans ce rapport beaucoup plus sain à l'alimentation. Et en fait, je pense que je suis venue à la cuisine parce que j'ai eu cette période d'adolescence où j'ai beaucoup fantasmé le fait de manger, de préparer des choses, de cuisiner. Et évidemment, dans l'imaginaire de la cuisine, enfin, c'est comme ça que se forme la créativité, le désir de cuisiner, etc. Et je pense qu'il y a vraiment, dans la construction de ma volonté de devenir cuisinière, cette période a été hyper importante.
Alors, les douleurs typiques des chefs, j'imagine que c'est le mal de dos, mais je crois que vous, vous en êtes prémunis, déjà grâce à l'escrime, puisque vous étiez très athlétique, et au yoga que vous faites.
Alors oui, mais je suis devenue vraiment une sportive du dimanche. Enfin, je fais du yoga une fois par semaine, quand encore je le peux et que mon agenda le permet. Mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus complémentaire, effectivement, avec mon activité d'aujourd'hui. Et la cuisine est quand même un métier très intense. On a une grosse intensité deux fois par jour quand on a deux services par jour. Et le yoga me permet de m'entretenir et d'avoir effectivement des périodes d'étirement qui sont vraiment utiles avec notre métier. Et j'aurais, je pense, beaucoup de mal à refaire un sport aussi intense que l'escrime avec mon activité d'aujourd'hui.
Mais vous avez gardé des caractéristiques de sportive, notamment grâce à l'escrime, je crois, au quotidien.
Oui, vous voulez parler de quoi?
Ben, je ne sais pas, dans des interviews, j'ai lu, par exemple, la résistance au stress, oui, le goût de l'adrénaline.
Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec la cuisine, avec l'engagement que demande la cuisine. Et je pense que le sport est... Enfin, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec le sport. Et il y a aussi l'esprit collectif que je retrouve aujourd'hui dans le restaurant et que j'avais, vous voyez, on parlait de l'internat que j'ai eu pendant toute ma période adolescente. Et aujourd'hui, je trouve que avoir un restaurant, c'est très structurant. D'avoir une équipe, j'ai une équipe aujourd'hui presque de 18 personnes. Quand j'arrive au restaurant le matin, je trouve ça très structurant parce qu'on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on va produire, on sait ce qui va se passer avec un à deux services par jour. Donc il y a vraiment, et puis il y a ce moment, on commence la matinée, on commence les préparations, on fait ce qu'on appelle la mise en place, donc on prépare toutes les choses, en salle aussi, il y a toute la salle du restaurant qui se prépare comme une sorte de cérémonial, et puis ensuite il y a le service avec une montée d'adrénaline. Et ça ressemble vraiment à une compétition sportive. On se met en condition et puis ensuite on a ce moment de pic de stress qu'il faut savoir gérer. Et évidemment, j'ai retrouvé ça dans la cuisine.
Vous mangez toujours bien, parce que j'ai lu que vous étiez allée chez Quick une fois petite et que vous avez été très déçue, ce qui est sans doute, vous êtes sans doute la seule. Et que vous n'aimez pas trop les fast-foods.
Non, toujours pas.
C'est bien ?
C'est bien, oui, c'est bien. Et je crois que j'ai été bien habituée. Après, ça m'arrive d'avoir quelques guilty pleasures. Hein.
Comme des chips.
De plus en plus d'ailleurs, en vieillissant. Oui. J'aimais pas les chips avant et j'aime de plus en plus les chips.
Oui, les chips sont aimables. Mais...
les chips, les bâtonnets glacés, voilà. Tout ce qui est aussi en relation avec les vacances, quoi, quand on se lâche. Donc, ouais.
J'ai toujours aimé bien manger. C'est vrai que je viens de la campagne. J'avais la chance d'avoir mon père qui était boucher éleveur. Donc effectivement, on avait l'habitude de manger de belles viandes, de très belles viandes, des poissons de rivière, voilà. Mais la cuisine, ça n'a pas été quelque chose d'immédiat. C'est venu après.
Vous êtes plutôt viande ou poisson ?
Je suis plutôt légumes. Et après, poissons, coquillages, mais je dirais qu'en produits de la mer, c'est vrai que j'aurais des préférences pour les crustacés, pour les coquillages. Et les agrumes aussi, une grosse importance dans ma cuisine. Je ne fais que ce que j'aime faire et uniquement ce que j'aime manger. Après, effectivement, c'est un métier de partage, donc j'adore le faire partager aux autres. Mais avant tout, ma démarche est quand même égoïste, c'est-à-dire que tout ce que je n'aime pas, effectivement, je l'ai banni, mais je l'ai remplacé par autre chose.
Vous opinez du chef Manon Fleury. Vous êtes passé par The Kitchen Gallery chez le chef étoilé William Ledeuil, qu'on entend dans une interview pour Le Point en 2010. Je crois que le premier jour, vous êtes coupé, vous êtes évanoui.
Vous êtes vraiment bien informée.
Bah oui, c'est mon métier.
Oui, je me suis évanouie donc dans mon premier jour chez William Ledeuil et je n'aime pas la vue du sang. Donc ce qui est problématique quand on commence en cuisine, et donc je me suis évanouie, je pensais pas qu'il allait me garder et finalement il m'a gardée. Il m'a dit quelques temps après que c'est parce que j'avais été sportive de haut niveau, et William Ledeuil a fait beaucoup de sport, champion de karaté, etc. Donc je pense que j'ai eu ma place grâce à ça, mais sinon, sur ma première journée, c'était catastrophique.
Qu'avez-vous appris à l'école Ferrandi ? Une chose qui vous reste ?
Je pense que Il y a cette camaraderie que j'aime beaucoup en cuisine et qu'on avait, parce que quand on commence, on a plus ou moins une classe de 12 personnes qu'on garde pendant tous nos cursus. Et on était donc 12, et donc c'était un petit groupe avec lequel j'ai gardé vraiment des belles affinités. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de fort dans notre métier, d'avoir ces liens, ces réseaux d'entraide, cette transmission qui est hyper agréable. Et je pense que c'est pas le cas dans tous les milieux. Donc c'est la force de notre métier.
Donc, c'est beau, de plus c'est moelleux, c'est croustillant, on a tout là-dedans, je trouve.
On n'a pas gardé la forme, par contre.
Non, mais je trouve que bon, c'est un accident que je trouve très valorisant, tu vois. Regarde, viens voir, Régis.
Oui.
Mais c'est chouette, regarde. Mais on ferait que ça baigne complètement, là, tu vois. Très fluide. Et c'est un vieux mot de cuisine française que tu retrouves dans les vieux grimoires, qui s'appelle griblette. Alors, ça serait bien le filet de bœuf façon griblette, voilà, parce qu'il y a du lard fin, enfin, je sais pas. Non, j'ai pas triché, je vous promets. Là. J'avais une idée de faire un truc avec du lard, mais je ne savais pas plus.
C'est le chef Michel Bras qu'on entend dans la série de DVD documentaire « L'invention de la cuisine » de Paul Lacoste, dans laquelle vous avez découvert Manon Fleury, notamment le travail de Pascal Barbeau à l'Astrance, où vous êtes formé un an en 2013, vous y êtes retourné en 2016, et vous qualifiez votre passage là-bas d'expérience la plus importante de votre formation.
Oui, et je suis tellement fan de cette série documentaire, qu'on soit cuisinier, cuisinière ou pas. C'est difficile de la retrouver, mais je pense qu'en ligne on peut l'acheter. Mais vraiment, moi c'est ce qui m'a fait aimer en partie la cuisine et toutes ces cuisines d'auteur. Et effectivement, c'est grâce à ce documentaire autour de Pascal Barbeau que je l'ai découvert. Et c'était marrant parce que c'était un chef chez qui j'étais en stage à cette époque-là, qui s'appelait Alexandre Couillon, qui m'a prêté ce DVD.
Et à la marine, à Noirmoutier.
Exactement. Et quand il m'a demandé quel était le DVD que j'avais préféré, parce que c'est une série documentaire sur que des chefs 3 étoiles en France et aussi en Italie, etc. J'ai dit mon coup de cœur, c'est vraiment Pascal Barbeau. Et le lendemain, mon prof de cuisine à Ferrandi, justement, m'a appelé pour me dire qu'il avait pensé à moi pour m'envoyer en apprentissage l'année d'après chez Pascal Barbeau. Donc c'était une coïncidence de fou. Et effectivement, cette expérience a été pour moi l'expérience la plus marquante en termes de sensibilité, de relation aux produits, d'intelligence de cuisine, d'émerveillement. Et je pense qu'il se passe rarement une journée en cuisine sans que je pense à Pascal Barbeau.
Oh. C'est là que vous avez appris aussi à ne pas gâcher les parties moins nobles, entre guillemets, des aliments, comme les arêtes de poisson ou les peaux des cucurbitacées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, avec la peau d'un concombre ?
Oh, facile ! Donc, peau d'un concombre, si vous avez un petit mixeur à la maison, ça peut être un petit blender, un petit mixeur d'appoint, etc. Vous prenez ces peaux de concombre, vous mettez de l'eau et vous mixez. Ça va vous donner une sorte de bouillie. Il faut quand même que cette bouillie soit un peu liquide, donc vous pouvez rallonger avec de l'eau si vous avez de la pulpe de concombre. Et cette pulpe, vous allez la filtrer. Donc vous pouvez prendre un petite passoire fine avec un petit torchon de maison. Vous passez cette pulpe et ça va vous donner une eau de concombre. Et avec cette eau de concombre, vous pouvez vous faire un petit cocktail sans alcool. Vous pouvez vous en servir pour faire une vinaigrette, pour faire une salade. Vous pouvez vous en servir pour faire une soupe légère pour vos dîners d'été. Voilà.
Ah oui, c'est très excitant.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester. If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you.
New York de Sinatra. Pour introduire votre expérience en 2015, Manon Fleury, vous avez rejoint les cuisines à New York du Blue Hill at Stone Barns de Dan Barber. Quelles sont les différences majeures que vous avez notées entre la cuisine en France et celle aux États-Unis ?
Alors cette cuisine était particulièrement impressionnante pour moi parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans une une aussi grande cuisine. J'avais eu l'habitude d'être dans des cuisines où on était une dizaine, et là on était entre 20 et 25, donc c'était un gros choc. Évidemment, on parlait anglais et j'avais un niveau d'anglais assez faible, donc c'était aussi une immersion assez impressionnante. Et puis ensuite, j'ai découvert ce qu'était le management à ce moment-là, parce que dans mon parcours en France, j'avais jamais fait de réunion, jamais eu vraiment... En fait, la transmission se faisait de manière orale, debout dans une cuisine, ce qui n'était pas une mauvaise chose en soi, mais il y avait rarement des briefings, des moments où on se posait, où on réfléchissait ensemble, etc. Et là, j'ai découvert la possibilité de se retrouver entre cuisinier et cuisinière et réfléchir au menu qu'on allait faire. Et puis, il y avait un lien très particulier à Blue Hill, c'était qu'on avait une ferme qui était juste à côté du restaurant, donc on travaillait avec 80% des produits de la ferme. Et donc, on avait des réunions presque tous les matins avec les fermiers qui viennent nous apporter des produits. Donc, parfois, on avait 10 variétés de pousses de brocolis. Et il fallait qu'on goûte ces pousses de brocolis et savoir qui était la meilleure et celle qu'on allait cuisiner et comment on allait la cuisiner, etc. Et c'était extrêmement enthousiasmant.
Φτάνω στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά.
Mélina Mercury, Les Enfants du Pirée, pour nous télétransporter en Grèce. Manon Fleury, comment vous êtes retrouvée cuisinière pour une famille allemande en Grèce ?
J'ai eu une opportunité d'amis qui connaissaient quelqu'un qui était propriétaire d'une île en Grèce. C'est pas rien.
Ah non, c'est pas rien.
Ça arrive pas beaucoup de fois dans une vie.
Non.
Et à l'époque, justement, je rentrais des États-Unis. Et puis, j'avais besoin d'un peu de temps, de prendre du temps pour moi, d'avoir un rythme un peu moins intense, parce que l'expérience aux États-Unis avait été difficile. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de m'essayer à cet exercice de chef privé. Et donc, je suis allée cuisiner sur une île en Grèce pour une famille d'Allemands qui avait une villa. Et donc, je m'occupais d'eux, ils étaient six. Et je leur faisais à manger matin, midi et soir. J'allais faire mes courses en bateau toutes les semaines. Donc, il fallait que je m'organise pour ramener les denrées nécessaires pour une semaine. Je recevais du poisson frais par un pêcheur grec qui m'en apporté une à deux fois par semaine, c'était magique. J'étais presque tombée amoureuse de lui, mais...
C'est en Grèce que vous avez découvert la feuille de figuier, donc la feuille biblique.
Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des essais par rapport à, je pense aussi, mes goûts, et en essayant de ressortir aussi tout ce que j'avais appris jusqu'à maintenant, parce que j'avais jamais eu l'opportunité de faire ma propre cuisine. Et je revenais d'un voyage à Singapour avec un chef, avec Pascal Barbeau justement, où je l'avais aidé sur un projet d'événement. Et j'avais mangé du chicken rice à Singapour.
Qu'est-ce que c'est que du chicken rice?
Bah, c'est
du poulet avec du riz, tout simplement.
Du poulet avec du riz cuit à la vapeur. Et j'ai eu envie de réinterpréter ce chicken rice en mettant de la feuille de figuier dans un panier vapeur, un panier en bambou. Et je me suis aperçue que la feuille de figuier, à ce moment-là, venait apporter son odeur et sa saveur au riz. Et donc, j'ai fait cet essai de chicken rice en Grèce. Donc, c'était drôle. Et j'ai eu envie de faire plein de choses avec la feuille de figuier parce que je me baladais dans cette île qui était magnifique, en faisant notamment des footings le matin avant d'aller travailler. Et il y avait ces figuiers qui embaumaient avec cette odeur presque... Vous savez, la feuille de figuier, ça a des molécules en commun avec la noix de coco. Et donc, moi, je m'en sers chez Datil pour remplacer l'usage de la noix de coco. Donc, on a fait un flan récemment, justement avec un dessert à la figue, parfumé à la feuille de figuier, comme si on utilisait la noix de coco avec l'inspiration d'un flan thaïlandais à la noix de coco.
Waouh.
Voilà.
Alors, Datil, ça aurait dû ouvrir en 2020, mais il y a eu le confinement.
Oui.
Vous avez cuisiné pour les soignants à cette époque ?
Oui.
Qu'est-ce que vous leur faisiez à manger ?
Des choses assez simples finalement, parce qu'il fallait cuisiner en grande quantité. On cuisinait pour 200 à 300 personnes. J'ai cuisiné avec un ami qui était traiteur, qui s'appelle Justin. Et à ce moment-là, moi, c'était un peu déroutant parce que j'avais plus l'habitude de cuisiner pour autant de personnes. Donc je me souviens de me dire, mais il faut cravacher pour produire 200 couverts. Et donc on faisait... des choses assez simples, des légumes rôtis, justement, on cuisait plein de céréales, etc. Il fallait quand même faire des choses assez nourrissantes et qui faisaient du bien aussi pour la santé. Donc, on en revient aussi à cette cuisine qui fait du bien au corps. Donc, c'était un exercice assez chouette. Et après, on s'occupait même d'aller les distribuer dans les hôpitaux. Et donc, j'ai des souvenirs assez c'était assez structurant d'avoir ça à ce moment-là et de se sentir utile.
Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur l'association bondir.e que vous avez cofondée en 2021
Donc c'est une association qui fait de la prévention contre les violences dans la restauration, donc pas que en cuisine, mais dans la restauration en général, qu'on a cofondée avec plusieurs chefs donc chef femme au début, et puis après qui s'est élargi avec plein d'autres personnes du métier de la restauration, dont le cœur principal d'activité, c'est de faire des interventions dans les écoles hôtelières, donc pour faire de la prévention auprès des jeunes contre ces violences. Donc en fait, on s'aperçoit que dans notre milieu, il y a pas mal de déviances, comme aussi dans d'autres milieux professionnels, mais la restauration est particulièrement touchée.
À cause des horaires.
À cause des horaires, mais surtout à cause du stress, en fait. C'est un gros problème de gestion du stress. Les horaires, parce que souvent, un peu comme dans le cinéma, où on s'est senti à part, à se dire, en fait, on est un métier à part, on travaille le week-end, on travaille le soir, et on peut se permettre certaines choses. Mais aussi avec vraiment cette pression et ce stress à gérer tous les jours, avec ses services, avec cette obligation d'avoir, de produire quelque chose avec des clients, avec des attentes de clients qui sont fortes. Cette pression aussi du temps, cette pression aussi de la matière première en cuisine. Par exemple, parfois, on commande un poisson de 12 kilos et on a un poisson de 8 kilos qui arrive et il faut servir 30 clients et on ne sait pas comment on va les servir parce qu'on n'a pas assez de poissons. Donc il y a pas mal de choses, il y a plein de facteurs comme ça qui augmentent le stress et donc c'est beaucoup de gestion de ce stress. Donc on fait ces préventions avec dans les écoles et puis aujourd'hui on a développé d'autres choses, on a une ligne d'écoute pour les victimes de violences. On est en train de développer deux formations pour les professionnels, parce qu'on a eu beaucoup de demandes en fait de professionnels pour pouvoir améliorer le milieu, donc avec des outils de communication, avec de la sensibilisation vis-à-vis de ces violences et avec des outils pour pouvoir faire changer les choses.
Vous avez toujours eu des questionnements écologiques et politiques ?
Non, c'est venu avec le temps, avec aussi ce que me permet la cuisine, parce que la cuisine touche à plein de sujets. Et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir m'intéresser à autant de domaines grâce à la cuisine, parce que je pense que j'ai effectivement un esprit très curieux et de pouvoir rassembler autant de sujets qui sont souvent politiques, effectivement, c'est très réjouissant.
En tout cas, vos produits sont français, vous êtes en lien avec des maraîchers, vous suivez le rythme des saisons, vous pensez à l'impact environnemental des produits utilisés. Il arrive que vous ne serviez pas du tout de viande et juste un peu de poisson. Et vous dites que parfois, il faut faire un peu de pédagogie auprès des clients qui trouvent que, je cite, « ça fait cher pour des légumes ». Et là, vous les invitez en cuisine.
Alors, je les invite pas vraiment en cuisine, mais on fait tout un travail dans l'expérience qu'on offre au restaurant avec toute notre équipe qui est très au courant de qui sont les producteurs avec qui on travaille, comment on travaille avec eux, parce qu'on travaille beaucoup en direct avec eux, avec des vraies relations de confiance, et qui sont capables de faire ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire à travers le repas et l'expérience qu'on propose. Et c'est comme ça pour moi qu'on fait d'abord de la pédagogie, c'est en racontant une histoire et en ayant une expérience qui est cohérente. Ensuite, après, il y a des clients qui viennent au restaurant qui ont juste envie de prendre du plaisir et de passer un bon moment. On évite de les asséner d'informations. En revanche, s'ils veulent toute l'histoire de d'où vient la feuille de figuier qui est dans leur assiette et qui a parfumé l'huile de la vinaigrette, ils peuvent l'avoir.
Somebody it would appear.
C'est votre choix musical, Manon Fleury, Sexy to Someone de Clairo.
Oui, tout à fait, cette jeune, jeune chanteuse. Je dis jeune chanteuse parce que, en fait, j'ai écouté beaucoup cet album en boucle cet été. Et j'avais pas réalisé qu'elle était aussi jeune. Et récemment, je suis allée vérifier son âge et je me suis aperçue qu'elle avait 26 ans. C'est hyper jeune pour avoir autant de talent. Et j'ai découvert sur, justement, on revient à la Grèce, mais je l'ai découverte sur une plage en Grèce cet été. C'était parfait comme bande-son face à la mer.
Je me rappelle le lait chaud, le pâté aux pommes de terre, ma grand-mère, les croissants pasquiers, mon grand-père, les steaks hachés, le jambon blanc, les galettes bretonnes, la rillette, la toile cirée un peu collante, les étés, les noisettes. La boucherie, mon oncle dedans avec son tablier blanc, j'aimerais qu'il m'en reste un peu plus que des souvenirs.
You know now, baby, please. You know I get so mad.
Jambon blanc 3.
Il n'y en a pas une plus grosse que l'autre, là, de part là. Celui-ci est pas plus grand.
Si je fais comme ça...
Voilà. C'est la découverte que vous avez choisie pour les auditeurs, Manon Fleury, le documentaire La Mélodie du Boucher d'Amélie Bonin, la réalisatrice de Partir un jour, qui a été présentée à Cannes cette année. Et je vous laisse nous parler de ce film.
Oui, j'avais vu le court-métrage d'Amélie Bonin sur Arte, donc Partir un jour, et j'avais été très séduite par ce court-métrage. Et quand Partir un jour a été annoncé comme long-métrage qui allait faire l'ouverture de Cannes, je me suis dit, c'est marrant, je me suis pas trop renseignée sur ce qu'elle avait fait avant. Et un ami m'a dit que elle avait fait ce documentaire, La Mélodie du Boucher, sur son oncle Christian, 65 ans, qui est donc boucher, qui a deux filles, mais qui ne veulent pas reprendre la boucherie familiale. Et donc, il est l'heure pour lui de partir à la retraite. Et en fait, Amélie se dit, mais en fait, si je fais rien sur mon oncle, il restera pas de traces de ce qu'il a fait, de la richesse de ce qu'il produit, etc. Et donc, le documentaire suit son oncle dans ses confections de préparation charcutière, bouchère, etc. Donc, on voit plein de choses. On voit même les têtes de cochon sur le plan de travail, mais aussi la beauté des préparations charcutières, les pâtés en croûte, etc. Donc, c'est hyper beau et hyper poétique. Et on le voit aussi faire la tournée des villages, aller voir les personnes âgées, etc. Donc, on montre aussi le lien social qu'a porte ces artisans de village, donc j'ai trouvé ça hyper beau.
Que sont devenues les fleurs du temps qui passe? Que sont devenues les fleurs du temps passé?
Dalida, que sont devenues les fleurs pour introduire un de vos souvenirs marquants, Manon Fleury, c'était à 20 ans, c'était pour l'anniversaire de la grand-mère de votre petite amie de l'époque chez le triple étoilé Michel Bras à L'Aïeul. Et c'était la première fois que vous mettiez les pieds dans un grand restaurant et vous avez goûté des fleurs rares dont oui. Vous avez encore le goût en bouche.
Oui, c'était des fleurs d'émérocale, qui sont des fleurs comme toute fleur qui s'ouvre le matin avec le soleil et qui se ferme dès qu'il n'y a plus de soleil. Donc, il faut les récolter le matin quand elles sont ouvertes. Et je pense que c'était le cas à L'Aïeul parce qu'ils ont un jardin et qu'ils allaient cueillir les fleurs le matin. Et ces fleurs étaient garnies, donc c'était comme une sorte de dessert. Elles étaient garnies avec de la crème pâtissière. Et donc, on pouvait les manger entières, garnies de crème pâtissière. Et c'est un souvenir mémorable.
La première fois que vous avez pleuré en mangeant un plat, c'était des langoustines mi-cuites avec des framboises fraîches et des champignons.
Oui, c'était chez Alexandre Couillon, donc à la Marine. Et c'est drôle parce que ce plat, je le préparais en cuisine. Et un jour, donc ça faisait quelques semaines que j'étais arrivée en stage à la Marine, et c'était mon anniversaire. J'avais dit, ma maman vient me rendre visite, c'était sur l'île de Noirmoutier, donc les parents ne venaient pas tous les jours, et elle était venue me rendre visite pour mon anniversaire, et elle m'a dit, en fait, tu vas passer de l'autre côté, et tu vas aller t'asseoir en salle, et pour goûter le repas. Et j'ai été émue aux larmes en mangeant ce plat que j'avais pourtant préparé, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi bon. Et il y avait un rapport à la chair de la langoustine, de la fraîcheur de la framboise. Et je pense que c'est un de mes souvenirs constitutifs de mon palais, de ce qui après a constitué aussi ma cuisine et des goûts que j'avais envie de retrouver.
Alors, vous avez aussi été émue en larmes en faisant des tuiles au parmesan avec la chef italienne triple étoilée Nadia Santini du restaurant Dal Pescatore.
Oui. Je suis arrivée dans ce restaurant, c'était aussi un cadeau de mon ex-compagnon qui m'a emmenée en Italie et qui voulait me faire découvrir ce restaurant, dont j'avais aussi vu le documentaire « L'invention de la cuisine ». Donc j'avais tout un imaginaire autour de cette chef-femme, des seules chefs-femmes 3 étoiles en Italie. Et je suis arrivée dans ce restaurant qui quand même date de certaines années. Donc Nadia Santini, elle a plus de 70 ans. Et je suis arrivée en cuisine juste pour passer une tête, voir comment ça se passait. Et elle était là. Elle était en train de cuisiner. Et elle m'a accueilli les bras grands ouverts en me disant « on va cuisiner ensemble des tuiles au parmesan » et j'ai pas pu me retenir, c'était trop émouvant.
Je suis partie, comme, parce que nous tous, quand nous pensons au passé, d'une rêverie tout à fait occasionnelle dans la villa Adriana d'autrefois. J'avais 20 ans. Si j'avais écrit le livre à cette époque, c'eût été probablement une sorte d'essai poétique sur un homme qui avait aimé les arts, les lettres, la vie, et qui vieillissait dans ce décor magnifique de la villa. Quand j'ai recommencé en 1949 à écrire Adrien et à assembler de nouveau une documentation, Adrien n'avait sans doute pas changé, mais j'avais changé.
C'est Marguerite Yourcenar qu'on entend en 68 sur la RTF. Manon Fleury, en lisant un article des Échos, j'ai appris qu'à chaque client du restaurant, vous offriez un petit livret d'une quinzaine de pages de références artistiques, peinture, littérature, cinéma. Et les journalistes des Échos qui rapportent cela ont eu un extrait des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Est-ce que c'est choisi par vous ?
Alors, c'était choisi par notre équipe de direction artistique à l'ouverture du restaurant, mais c'était en total écho avec mes goûts littéraires, les goûts d'ouverture artistique qu'on voulait pour Datil. Je dis « on » parce qu'on a choisi beaucoup de choses avec Lorraine Barjou, qui est la chef du restaurant et qui m'a aussi beaucoup aidée dans le projet au début, aussi sur la direction artistique et qui m'accompagne toujours. Et ces livrets sont censés être des fenêtres ouvertes vers le monde, parce que pour moi, un restaurant doit avoir sa place dans un monde actuel, doit résonner aussi avec la société qui l'environne. Et j'avais envie, parce que le restaurant est aussi dans un quartier spécifique, il est dans le Marais, avec entouré de galeries d'art, entouré de choses très inspirantes, et j'avais envie qu'il puisse résonner avec ce qui l'entourait. Et donc ces livrets, ça permet aussi de donner le « là » sur ce qu'on a envie de faire vivre à nos clients. Il va y avoir des nouveaux livrets qui vont arriver là dans les semaines qui vont venir, avec une sélection que d'artistes femmes contemporaines, qui sont vraiment aussi dans la continuité de ce qu'on essaie de mettre en œuvre chez Datil.
Et dans l'ancien, il y avait Good Morning d'Ozu, un film, et un dessin de Magali Bruder, publié en 2023 dans le journal Corse Matin. Merci beaucoup, Manon
Merci
Fleury.
Merci, Eva.
Votre restaurant Datil se trouve dans le 3e arrondissement de Paris et votre ouvrage de recettes intitulé « Céréales » est paru chez Flammarion. Vous venez de publier avec Zazie Tavitian Amuse-Bouche un cahier de vacances culinaire illustré par Oriane Safré-Proust aux éditions de Noël. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivar. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Élise Christophe.